France Musique. France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Ce tableau a été soumis à tous les examens scientifiques connus.
C'est un faux très convaincant, mais vous savez ce qu'il en est. D'ailleurs, c'est vous qui avez tout manigancé, n'est-ce pas? Cet enfant va mourir. Dites-moi pourquoi c'est un faux. Dites-le-moi. C'est évident, évident. J'ai la preuve sous le nez.
Oh,
au planétarium aussi, tu l'as entendu? Oh, c'est brillant. C'est génial. Qu'est-ce qui est brillant, Sherlock? C'est magnifique. Oh, j'adore. Sherlock! La supernova Van Buren désigne une étoile en train d'exploser et n'est apparue dans le ciel qu'en 1858.
Alors comment a-t-elle pu être peinte vers 1640?
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Aujourd'hui, comme nous avons pu l'entendre, vous nous parlez de contrefaçon.
Oui Gabriel, c'est un sujet qui fait beaucoup parler en peinture, comme dans cet épisode de Sherlock Holmes, mais aussi en musicologie. Il y a la contrefaçon habituelle qu'on connaît bien, que j'hésite même à appeler contrefaçon. Ça c'est quand un compositeur s'approprie les œuvres des autres. On pense à Handel qui reprend la musique de Stradella ou Bach qui reprend la musique de Vivaldi. Et puis il y a celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire quand d'astucieux experts font passer leurs propres exercices pour l'œuvre d'un compositeur connu. La liste, on la connaît un peu, il y a l'Adagio d'Albinoni, l'Ave Maria de Caccini, tous les faux baroques de Fritz Kreisler ou de la famille Casadesus. Et puis il y a ce qui s'est passé en 1993 et qui pourrait presque faire l'objet d'un film.
L'action se passe à Londres le 14 décembre 1993.
Le musicologue H.C. Robbins Landon se tient devant un parterre de journalistes lors d'une conférence de presse et fait l'annonce suivante. On vient de découvrir, après 200 ans, 6 sonates pour clavier de Joseph Haydn. Dame allemande en aurait fait don à un professeur de musique, Winfried Michel, qui aurait ensuite transmis les photocopies pour avoir leur avis à Eva et Paul Badura-Skoda, qui à leur tour le transmettent à London. Ça fait les gros titres dans la presse internationale. La BBC demande les droits pour la première radiodiffusion. Cette découverte est inespérée. Elle correspond précisément à 6 sonates qui auraient disparu et dont nous connaissions quand même l'existence grâce à un véridique catalogue qui recense tous les débuts de sonates de Haydn. Là, toutes les premières mesures de ces sonates étaient bien celles écrites par Haydn dans son catalogue. Et puis tout à coup, tout s'arrête. On n'y croit plus. 2 semaines après cette conférence de presse, la communauté scientifique a tranché. Ce sont des faux.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, Christophe?
Eh bien, les musicologues de l'Institut Joseph Haydn de Cologne se sont réunis et ont travaillé sur les photocopies. Quelques jours plus tard, le verdict est annoncé.
Musicalement, il y a trop de fautes techniques et d'étrangetés à la fois dans les constructions thématiques et dans la forme à grande échelle.
Eh oui, en 1770, il faut savoir que Haydn expérimente avec un clavier plus dramatique, avec plein de contrastes, de nuances, avec des dissonances, ce qui rend un peu flou la notion d'erreur. Parce que finalement, dans la contrefaçon, ce qui est perçu comme bizarre à l'oreille pourrait très bien être une expérience de Haydn. Et c'est sur ça que compte Winfried Michel, le véritable compositeur. Alors, il y a quand même un passage qui vaut le coup d'oreille. Nous sommes dans la fausse sonate en ré mineur. Pour affirmer le ré mineur, on utilise juste avant, normal, un accord de tension, un accord de dominante. Et pour ça, vous pouvez le faire, alors désolé pour le côté technique, soit avec un napolitain, soit avec une substitution tritonique, soit avec une dominante toute simple. Là, il télescope un peu les 3 attitudes, ce qui est plutôt propre au jazz au XXe siècle. Je vous fais entendre d'abord une version « corrigée », entre guillemets. Et je vous fais maintenant écouter ce qu'il y a sur la partition en vrai. Ici. Ici. Alors, je dis pas que c'est une erreur. Simplement que c'est extrêmement rare à cette époque. Et c'est vrai que ça aurait pu passer pour une expérimentation de Haydn. Une seule petite bizarrerie comme celle-ci, ça passerait. Mais en voulant trop bien faire, en donnant trop dans le double bluff, Winfried Michel a fini par en truffer les partitions. Et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille des musicologues. Alors, ce qu'on va faire maintenant, Gabriel, et tout le monde à la maison, c'est écouter un extrait de ces fausses sonates, en oubliant qu'il s'agit d'une contrefaçon, juste pour profiter de la musique.
Notre culture snob d'aujourd'hui fait que notre expérience esthétique dépend du fait de savoir avant l'écoute qu'une sonate est de Haydn.
Ça, c'est Glenn Gould qui le dit. Et c'est vrai. Si je n'avais pas dit que c'était un faux, on en aurait sans doute mieux profité. Alors que finalement, nous avons là 6 sonates qui connaissent très bien le langage de Haydn et qu'on peut écouter avec plaisir. Pour Glenn Gould, c'est la musique qui compte, mais pas d'où elle vient.
Merci pour le gâchis, donc.
Oui, voilà.
Merci beaucoup, Christophe Dilys, pour cette chronique.
Et j'allais oublier, il y a quand même eu une découverte de taille pendant l'enquête, c'est quand les musicologues ont fini par se rendre compte que les fausses sonates avaient été écrites au stylo. Voilà, ça leur a quand même mis un peu la puce à l'oreille. Alors j'invite tout le monde à jeter un œil à la page internet du jour de Tendez l'oreille. J'ai mis pas mal de choses.
Sur notre site francemusique.fr. C'est vrai que ça fera un bon film, hein. C'est fou ce...
Oui, hein, ou un bon Blyden test.
C'est-à-dire
Haydn et Blind Test.
Ah, ok, d'accord.
Blind Test.
Ok, je l'ai.
Voilà.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Christophe.
Oui, bonne semaine.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.